Que le nom du Seigneur soit béni. Pour ces moments que nous pouvons passer sous le regard de Dieu, c'est-à-dire dans sa grâce. Nous allons poursuivre ce sujet qui nous préoccupe depuis plusieurs moments, à savoir une question, iras-tu au ciel ou en enfer ? Il y a des textes dans la parole de Dieu qui doivent être apportés, doivent être présentés, afin que Dieu puisse justement nous honorer, parce que nous ne pouvons pas prêcher qu'un aspect de la parole de Dieu, nous devons prêcher toute la parole de Dieu. Nous allons faire deux ou trois lectures d'abord, dans le prophète Ézéchiel, où Dieu dit à ce prophète que c'est vraiment sa responsabilité d'apporter la vérité. Ézéchiel, chapitre 33, verset 7, jusqu'au verset 11e. Il faudrait presque lire jusqu'au verset 20, mais vous le lirez chez vous, ça sera peut-être la conclusion de tout à l'heure. Ézéchiel, chapitre 33, verset 7e. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre ? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? C'est donc une question du Seigneur, mais pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Nous allons faire une autre lecture dans l'évangile de Jean, le verset le plus connu, peut-être du Nouveau Testament, Jean 3,16. Évangile de Jean, c'est dans une fameuse discussion où Jésus discute avec un docteur de la loi qui n'a pas compris que pour être sauvé, il faut naître de nouveau. Jésus le lui explique. Et au verset 16 de ce chapitre 3 de Jean, il est dit ceci, « Car Dieu, c'est Jésus qui parle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Un petit peu plus loin dans l'épître de Paul à Timothée, dans la première épître de Paul à Timothée, c'est la fin, c'est les écrites pastorales, nous allons lire au chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1er, au verset 7. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 7. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Le verset 4 nous rappelle une grande vérité, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Voilà la vérité. Nous venons de lire les deux aspects, de lire les deux aspects de la parole de Dieu, à savoir que le péché nous condamne et qu'en même temps que Jésus-Christ a donné sa vie en rançon au calvaire pour que nous ne soyons plus condamnés, mais pour que nous soyons sauvés. La question que Dieu pose dans le prophète Ézéchiel est une question que Dieu pose encore aujourd'hui. Pourquoi devriez-vous mourir ? Pourquoi les gens se priverait-il de la grâce de Dieu? Pourquoi les gens ne prendraient pas au sérieux les choses spirituelles? Et c'est vrai que l'homme, je le vois dans les entretiens, vous le voyez autant que moi lorsque vous rendez témoignage, lorsque vous offrez un évangile, lorsque vous parlez de Jésus-Christ tout simplement, vous voyez que les gens n'arrivent pas à saisir cette compassion. C'est vrai qu'il est dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé le cœur des pécheurs, mais même quand Jésus était sur la terre et qu'il était là, présent, et qu'il se manifestait, d'ailleurs lui-même le dit, il le dira devant Jérusalem en pleurant, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides les prophètes, etc. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ?» Et vous ne l'avez pas voulu. C'est pour ça que les chrétiens, vous devez faire très attention à ne pas vous culpabiliser, parce que lorsque vous rendez témoignage, la personne réagit mal. Notre responsabilité, c'est d'être des témoins. On n'est pas des convertisseurs. On témoigne de notre foi, on témoigne de notre expérience, de notre amour et de notre attachement à Jésus, mais on ne peut convertir personne. Jésus n'a pas pu amener la ville de Jérusalem à se rassembler autour de lui. Ils ont préféré les ténèbres. Et il faut bien faire la différence entre l'importance de rendre un bon témoignage et puis le fait que la personne réagisse bien ou mal au témoignage. C'est pas parce que la personne réagit mal que vous avez mal témoigné. C'est vrai que les hommes sont séduits. Les hommes sont aveuglés. Les hommes sont dans le péché. Les hommes sont dans des angoisses de ténèbres pas possibles. Et c'est vrai qu'on peut lire un petit peu avant dans Éphésiens. L'apôtre Paul en parle également aux Éphésiens. Quelques livres avant, Éphésiens chapitre 5, on voit que on peut, par des discours, par des ruses et des méthodes, ça revient souvent dans la parole de Dieu, ce matin je lisais l'épître aux Galates, et on voit combien ces hommes qui ont connu la grâce de Dieu se sont laissés détourner par de faux docteurs qui enseignaient qu'il fallait revenir à la loi. Et Jésus va leur dire, Dieu va leur dire au travers de Paul, mais vous êtes déchus de la grâce. Ils avaient commencé par la grâce et par la foi, et ils ont terminé par la chair. Ils se sont fait séduire par des faux docteurs. Mais ça va loin, cette affaire. Regardez ce qu'il est écrit, Éphésiens chapitre 5, verset 6. « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. » Et il explique là-dedans qu'avant nous étions dans les ténèbres et que maintenant nous sommes dans la lumière et nous revoyons sans cesse dans la parole de Dieu cet antagonisme entre d'un côté la lumière dans laquelle il faut absolument veiller de marcher et ces ténèbres qui sont tout le temps là en train d'essayer de nous aspirer par des moyens subtils, vicieux, des séductions. Jésus va même jusqu'à dire « Si la lumière qui est en toi est ténèbres ». Grandes, combien seront grandes ces ténèbres? Combien de choses peuvent nous paraître être lumineuses et en vérité, ce sont des ténèbres. Parce que ce n'est pas vraiment la parole de Dieu. Que personne ne vous séduise. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut être sérieux avec la parole de Dieu. À cause de ces choses, la colère vient sur les fils de la rébellion. Le cœur de l'homme, il est rebelle. Est-ce que vous le croyez ça, que les hommes sont rebelles? Ou est-ce que vous avez besoin d'une dissertation dessus? Les hommes sont rebelles. Les hommes ont du mal à obéir. Mais même nous, on a un combat. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que nous, les chrétiens, on n'a pas un combat aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un combat? Eh ouais. Il y a ce combat, que personne ne nous fasse croire, que personne ne le vit. Et nous vivons un combat. Alors, nous pouvons le vivre d'une façon difficile, mais victorieuse. Mais l'homme, lorsqu'il n'a pas la grâce de Dieu, tombe dans cette rébellion. Regardez avec moi. Dans Romains au chapitre 13, un verset qui nous montre combien l'homme a du mal à se soumettre aux autorités. Est-ce que c'est vrai ça? Combien les gens contestent l'autorité? Alors que s'il y a bien une chose que l'on devrait savoir, c'est à qui on doit se soumettre pour être béni. D'ailleurs, la preuve, ce texte nous l'indique, ce n'est pas le sujet de la soirée, mais c'est pour vous dire combien l'homme est rebelle. Romains chapitre 13, verset 1er. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » Voyez, mes frères et sœurs, comme il est important de savoir se soumettre. Et même si votre patron, c'est un homme impie, est-ce que c'est une raison pour ne pas vous soumettre à lui? Est-ce qu'il faut se soumettre qu'au gendarme chrétien, chrétien, etc., etc. Dites-moi. Eh ouais, mais il y a des chrétiens qui ne se rendent pas compte combien ne s'attirent pas du tout la bénédiction sur eux parce qu'ils ne se soumettent pas aux autorités qui sont au-dessus d'eux. Et j'ai lu un livre, d'ailleurs, que j'ai conseillé à notre jeune pasteur, qui s'appelle « L'autorité spirituelle » de Washmani. Cet homme, il explique dans son livre que pour être béni, il faut partout où un homme se trouve, quel qu'il soit, quel que soit son titre, quelle que soit sa fonction, quelle que soit sa responsabilité, il doit savoir quelle est l'autorité qui est au-dessus de lui, afin de ne pas passer à côté de la bénédiction. Et c'est biblique. Regardez avec moi dans Jude, au verset 11. Dans Jude, au verset 11, c'est un texte moi, qui m'a longtemps turlupiné, cette affaire, de ces trois exemples d'abandon de Dieu, de rébellion. Dans Jude, au verset 11, chapitre 1er, ou le dernier, comme vous voulez. Jude, verset 11. Alors, il y a cette parole de Dieu qui revient, j'en ai parlé la dernière fois, cette expression « malheur à eux ». On le voit quand Dieu s'adresse au pasteur de l'époque, il dit « malheur à vous », quand il dit même mieux « maudit êtes-vous », etc. Ce sont des textes qui quand même doivent nous faire réfléchir. Même si nous sommes créés pour le bonheur, il y a quand même des comportements qui n'atteignent pas la bénédiction. « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn ». Vous vous rappelez ce qu'a fait Caïn ? Il a offert un sacrifice que Dieu n'approuvait pas. Lui, il a offert des fruits, des légumes, etc. Il a cultivé le jardin et il a offert. Et ça représente les hommes qui veulent être sauvés par les œuvres. Le malheur de Caïn, c'est qu'il a voulu être sauvé et être agréé de Dieu par les œuvres. Et on n'est pas sauvé par les œuvres. C'est pour ça qu'il a dit malheur à eux. Après, il nous est parlé de ceux qui se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ça, je ne l'explique pas parce que c'est trop long. Et ils se sont perdus par la révolte de Corée. Corée, c'est des croyants du temps de Moïse qui ne se sont pas soumis à l'autorité de Moïse. Et de toute façon, il n'y a pas que Moïse qui a l'autorité. Nous aussi, on peut l'avoir. Et ça s'est très mal fini. La terre s'est même ouverte sous leurs pieds et ils ont été engloutis dans le séjour des morts. Et ce qui nous prouve que l'homme est rebelle et que lorsque l'on découvre la grâce de Dieu, il doit y avoir cette soumission à la parole de Dieu, même si on ne comprend pas certaines choses. Combien de chrétiens ont attiré le malheur sur eux? Oui, une forme de malheur. Ils ont été malheureux en tous les cas parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à l'autorité de Dieu. Quand Dieu dit « tu pardonneras », pardonnez aux hommes leurs offenses. Si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Quelqu'un qui ne pardonne pas, il sera malheureux parce qu'il se rebelle contre l'enseignement de la parole de Dieu. Je vous donne un exemple, mais on pourrait en prendre d'autres. Et ça, déjà, ça peut s'introduire dans le cœur des chrétiens. Les chrétiens peuvent être imprégnés de ça. Et c'est pas bon. Il faut que nous écoutions toute la parole de Dieu, que nous acceptions toute la parole de Dieu. J'ai lu dernièrement ce qu'un théologien de séminaire biblique a écrit à ses étudiants. Bien. Il faut prêcher, attends, moi j'étais fou quand j'ai dit ça, il faut prêcher tout le conseil de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais il faut à tout prix éviter d'être négatif. Soyez positif, sociable et gagnez la sympathie de l'auditoire. Voyez? Et surtout, gagnez la sympathie de l'auditoire. On a l'impression que c'est des conseils pour un vendeur de voitures. Voyez? Vous voyez, pour un gars qui doit vendre des automobiles, soyez gentil avec les clients, rassurez-les. Et quand on pense que c'est un professeur de pasteur qui a dit ces choses, mes frères et sœurs, nous sommes en train, vous le voyez peut-être pas, mais nous on le voit peut-être parce qu'on est là dans les coulisses avec les pasteurs, nous sommes en train dans une nouvelle façon de présenter l'évangile, où on met l'accent sur le divertissement et sur l'ambiance. D'ailleurs, ce matin, un frère nous disait qu'il a été dans une église et qu'il y avait beaucoup d'ambiance. On fait marcher les gens, trois pas à droite, trois pas à droite. On se fait la bise, trois pas à gauche. Et c'est comme ça qu'on va mener les âmes à sortir de l'enfer. Et il m'a demandé ce que j'en pensais. Moi, j'en pense que ça, c'est de l'ambiance. Et la spiritualité dans une église et le salut des pécheurs, ce n'est pas une question d'ambiance. Vous êtes d'accord avec moi ? Ce n'est pas une question d'ambiance. On peut se poser la question, pourquoi vraiment les églises régressent? Pourquoi les gens prient de moins en moins? Pourquoi il y a de plus en plus d'immoralité et de violence? Mais parce que moi je crois qu'on a édulcoré le message biblique sur l'enfer. Et que si on se mettait à reprêcher l'importance d'être sauvé de l'enfer, je suis sûr que beaucoup de gens feraient très attention avant de faire certaines choses. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous croyez pas que, moi je crois qu'il y aurait moins de crimes, moins de prostitution, il y aurait moins de malheurs, moins d'immoralité si les gens avaient la pleine conscience de l'enfer. Je sais pas où j'ai lu quelqu'un qui disait, oh ben quand on sera en enfer, on jouera à la pétanque en enfer. Voyez? De l'air de, voyons, banalise ces choses. Comme ça, voyez, comme si c'est pas grave. Après tout, qu'on aille au ciel ou qu'on aille en enfer. Voyez? Et le problème, c'est qu'on a tellement diminué le message de la croix, édulcoré le message biblique de l'enfer, qu'on n'est plus conscient lorsque le Seigneur Jésus, par exemple, parle, quand il dit, mais que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? C'est une question que Jésus pose. Est-ce que vous vous rendez compte? Jésus dit que même si un homme gagnait le monde, alors que c'est impossible, jamais un homme n'arrivera à gagner le monde, mais même pour donner une image tellement grande, Jésus dit, à quoi ça servirait? Qu'un homme gagne le monde entier s'il perd son âme. Pour dire qu'une âme, c'est beaucoup plus important que la terre entière. Est-ce que nous le comprenons ça? Le prix d'une âme, parce que la terre, elle va passer, la terre c'est passager, la terre ça représente tout ce qui est temporel, alors que l'âme, dès qu'on parle de l'âme, ça parle de l'éternité, avec Dieu ou sans Dieu. Et ce soir, c'est mon devoir de pasteur. Vous avez vu comment Dieu dit à Ézéchiel, mais tu dois les avertir. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ça c'est pas ton affaire, dit Dieu à Ézéchiel. Mais tu dois leur dire que Dieu ne veut pas que les pécheurs meurent, que Dieu ne veut pas que les méchants restent dans leur méchanceté, mais qu'ils doivent revenir à Dieu et que Dieu se fera un grand plaisir de les pardonner. Mais il faut le dire, il faut le dire. Et ce soir, je dois le dire aussi à vous qui m'écoutez, avez-vous réglé le problème de votre éternité? Vous le savez, on l'a lu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que d'hommes et de femmes sont en enfer? Cet après-midi, je réfléchissais bien sûr à ce sujet, vous comprenez bien. Et je me disais, si tu avais l'occasion de poser des questions aux gens qui sont en enfer, qu'est-ce qu'ils te répondraient? On a plein de gens qu'on a connus, nous, vous et moi, qui sont en enfer aujourd'hui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ben oui, peut-être vous ne savez pas qui c'est, mais je vous dis qu'il y a des gens, et si on devait les questionner, certainement qu'ils changeraient d'avis par rapport à la façon dont ils vivaient leur foi, à la façon dont ils allaient à l'église, à la façon dont ils prenaient les choses de Dieu au sérieux. Dieu a tant aimé le monde, et Dieu aime le monde, et Dieu aime les pécheurs, mais le pécheur, s'il ne se repent pas, il ira en enfer. Et il ira en enfer pour l'éternité. Quand vous lisez les psaumes, vous voyez cette sévérité de Dieu. Enfin, toute la Bible, vous voyez d'un côté la sévérité de Dieu et de l'autre, vous voyez la compassion de Dieu. Je marquais ce verset tout à l'heure, le psaume 86, verset 15. Dieu nous rappelle que Dieu est compatissant et qu'il fait grâce. Est-ce que c'est toujours valable? Est-ce que Dieu est compatissant? Est-ce que ce soir, vous pouvez dire, oui, je sais que Dieu est compatissant? On a un vieux cantique, on le chante parfois, qui dit, c'est encore jour de grâce. C'est un très beau cantique, c'est encore jour de grâce, c'est un cantique qui encourage les pécheurs à s'arrêter et à faire la paix avec Dieu. Et ce soir, vous qui écoutez cette prédication, ou vous qui l'écouterez par le biais de l'enregistrement, vous pouvez vous réconcilier avec Dieu, vous pouvez obtenir sa faveur et son pardon. Mais une fois que la grâce sera passée, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens ne sont pas sérieux, je le dirai à la fin, c'est que les gens ne réalisent pas que la grâce s'achèvera. Elle s'achèvera parce que la dispensation de la grâce s'achèvera lorsque la colère de Dieu viendra sur la terre après l'enlèvement de l'Église, mais la grâce, elle s'achève pour un pécheur la minute après qu'il soit mort, la seconde après qu'il soit mort. Parce que quelqu'un est encore capable de dire, oui, si j'ai une minute, je le ferai après ma mort. Le moment où vous rendez votre souffle, où vous rendez votre âme, comme dit la Bible, ton âme te sera redemandée, C'est bien la preuve que votre âme et la mienne ne nous appartiennent pas. Notre âme, elle appartient à Dieu. Mais imaginez-vous sur la terre, n'importe qui ce soir qui dit, Seigneur, je t'en supplie, tes compassions, ton amour, ta miséricorde, ton salut, ta faveur, tout ce que vous voudrez. Instantanément, il peut être pardonné. Et pourtant, le pécheur qui ne fait pas ça, une seconde après sa mort, les lamentations, les supplications, les pleurs, les plus grandes supplications ne serviront à rien. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Et il faut être heureux, vous qui écoutez ce message, ou je le répète, vous qui l'écouterez par le biais d'Internet ou de l'enregistrement, bénissez Dieu d'être encore sur la terre. Les gens se plaignent sur la terre et ils pensent même au suicide. Ah, quand je me suiciderai, ça ira mieux. Je vous en supplie. Ça doit être terrible parce que même un homme qui a la pensée du suicide, même un homme qui a envie de finir avec la vie, il a toujours, tant qu'il est sur la terre, un espoir. Tandis qu'après sa mort et qu'il est parti en enfer, il n'y a plus jamais d'espoir. Que de drame à cause de cette ruse de l'ennemi. En enfer, il y a plein de gens. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris les choses de Dieu au sérieux. Ils ont entendu des prédications comme celle-ci, et ils ont dit, mais non, peut-être que c'est le pasteur qui exagère un peu, peut-être il est excessif, c'est peut-être un peu légaliste. Moi, je vous dis que je ne suis pas légaliste, et que je ne fais que répéter ce que la Bible enseigne. Et que tant que vous êtes sur la terre, appliquez-vous à prendre l'éternité au sérieux. On reviendra certainement dimanche sur l'histoire du mauvais riche. Vous connaissez l'histoire du mauvais riche et de Lazare. Je crois que Dieu a voulu parler énormément de l'enfer par rapport aux riches, parce qu'il ne faut pas avoir peur de parler aux riches. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, on hésite. C'est vrai qu'il y a des gens, peut-être, je ne sais pas pourquoi on est gêné, mais que ce soit des riches ou que ce soit des pauvres, il faut leur parler de l'enfer. Vous êtes d'accord? Et leur donner un évangile et leur témoigner. Ce n'est pas parce qu'ils sont riches que Dieu va leur faire exception. Croyez-moi, on est tous à la même enseigne, croyez-moi. L'histoire du mauvais riche de Lazare nous enseigne qu'il y a des gens qui se rendent compte trop tard qu'ils avaient besoin de la grâce divine. Cette histoire, on pourrait la résumer ainsi, tu te rends compte trop tard que tu as besoin de la grâce divine. Et dans Luc 16, on va juste y aller quelques instants, on y reviendra certainement dimanche. Dans Luc 16, cet homme se retrouve dans le séjour des morts. Il ne s'occupait que d'apporter quelques miettes, pensant certainement que ça suffisait pour tranquilliser sa conscience à un pauvre qui était couché à sa porte. Et dans le séjour des morts, regardez ce qu'il fait. C'est Jésus qui parle. S'il y a quelqu'un qui est bien placé pour ne parler de l'au-delà, écoutez, c'est bien le Seigneur Jésus. Oui ou non? Bon, s'il y a vraiment quelqu'un qui peut nous en parler, il n'y a que Jésus. Et ce n'est pas la peine de rajouter et d'en retrancher. Dans Luc 16, au verset 23, dont le riche est enseveli, dans le séjour des morts, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux. Et tandis qu'il est en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. » Cet homme, il fait exactement ce qu'il faut faire. Il lève les yeux. C'est l'image, quand on parle aux chrétiens de lever les yeux, c'est tout le temps l'image de lever les yeux vers Dieu. Oui ou non? Hein, c'est tout le temps cette image-là, lever les yeux vers le Seigneur. Il le fait, mais c'est trop tard. Chaque mot, je crois, est pesé par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. Et chaque mot est important. Cette histoire, ce n'est pas une parabole, cette histoire, elle est terrible. Parce qu'elle nous montre ce qui est en train de se passer. Depuis que j'ai commencé la réunion, il y en a peut-être des milliers de gens qui viennent de vivre ce qu'on est en train de faire. De lire, des gens qui se rendent compte que tout d'un coup ils sont projetés dans l'éternité sans Dieu, ah, ils lèvent les yeux, mais c'est trop tard. Vous avez vu, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Il prie et il supplie Dieu, parce que c'est une chose de prier, ça n'est une autre de supplier Dieu. Vous me suivez? Il n'y a pas que de la prière, il y a de la supplication, mais ça sert à rien. Il le fait trop tard. Des choses qu'on doit faire sur la terre, lever les yeux vers Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, tu vois, je suis un pauvre pécheur. Tu vois, Seigneur, encore j'ai commis une erreur, un manquement. Seigneur, pardonne-moi. Vous savez que notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mais il faut le faire avant de mourir. Cet homme, il devait se contenter justement que donner des miettes. Il y a des gens qui s'imaginent, oh mais je fais un peu de bien, je fais un peu de bien pour mes amis. Il y a des gens qui sont dans le besoin, je donne un sandwich, un clochard de temps en temps, ça devrait aller. Puis Dieu le voit quand même. Je donne un sandwich quand même. Ou alors je vais à l'église de temps en temps. Ah ouais. Et je crois que l'histoire du mauvais riche nous enseigne que ça ne va pas de penser qu'on s'en sortira en bon compte parce qu'on fait quelques petites choses, au cas où ça serait vrai. Parce qu'il y a des gens en plus qui vont à l'église au cas où. J'appelle moi ça les chrétiens du au cas où. Ils vont à l'église au cas où. Leur conviction est d'une légèreté pas possible. Ils vont prier au cas où. Ils chantent des cantiques, ils prennent la Sainte-Seine au cas où. Et il y en a des chrétiens comme ça. Ça, ça ne va pas du tout. Ça, c'est pas sérieux. Ce mauvais riche qui, par le fait qu'il donnait des miettes, représente l'homme qui certainement devait penser à Dieu de temps en temps. Moi, je pense à tous les gens qui sont en enfer, qui ont dû entendre des prédications comme celle-ci, qui ont dû lire les psaumes, qui ont entendu des cantiques sur l'importance de préparer à rencontrer Dieu. Je pensais aussi à ce psaume quand il dit « Toi, Seigneur, tu es bon et clément, riche en bienveillance pour tous ceux qui t'invoquent. » Prenez compte ces gens qui ont dû lire ces textes, qui aujourd'hui doivent se les rappeler. Mais les tourments éternels, ça doit être cette affaire de douleur, de ne pas avoir pris au sérieux. Je l'ai entendu, j'allais dans les églises. Combien ont récité le Notre Père ? Combien de gens sur la terre récitent le Notre Père tous les jours ? Ils le récitent. Et Dieu ne nous a jamais demandé de réciter des prières. Dieu nous a demandé de faire des prières et de les faire de tout son cœur. Combien de gens ont lu le Notre Père ? Notre Père, tiens, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Car si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Mais l'enfer, ça doit être ça. C'est-à-dire, je le savais, je l'entendais, et je l'entendais régulièrement, et le Saint-Esprit me pressait, mais je me posais encore la question, est-ce que c'est vraiment vrai, cette affaire ? Cette histoire, elle nous enseigne qu'après la mort, c'est trop tard. Et s'il avait levé les yeux avant, s'il avait prié avant, s'il avait supplié avant, c'était gagné. Parce que la Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque, c'est vous, c'est toi. Vous savez que je n'aime pas tutoyer, mais en fait, je veux dire, c'est toi, mon frère. Toi, ma sœur, toi qui viens pour la première fois, toi qui as blasphémé jusqu'à aujourd'hui, toi qui as dit « Mais tout ça, c'est des blagues, c'est l'invention du Moyen-Âge pour conditionner les gens, pour mettre la main sur les gens. » Eh non. Peut-être qu'au Moyen-Âge, on a dit des âneries, peut-être qu'on en dit encore, mais cette histoire, vous la vérifierez. Vous vérifierez que ce sont des choses vraies. Je ne vois pas pourquoi le Seigneur se serait amusé à nous mentir dans un domaine et à nous dire la vérité dans tous les autres. Je ne vois pas pourquoi. De la bouche de Jésus, il ne peut sortir que la vérité. Rappelez-vous l'histoire du paralytique. Vous savez qui a été descendu par quatre hommes de la maison où Jésus était en train de prêcher parce qu'il ne pouvait pas y accéder à cause de la foule. On va quand même le lire. Lisez-le parce que moi, il y a un texte qui m'a beaucoup interpellé, même en tant que pasteur. Par rapport au sujet qui nous préoccupe ce soir. Dans Marc, au chapitre 2, vous avez une preuve supplémentaire que le pardon, il s'obtient sur la terre. Marc, chapitre 2. Vous connaissez cette affaire, hein ? Il y avait tellement de monde, hein ? Dans l'évangile de Marc, chapitre 2. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au dedans d'eux. Vous voyez, Jésus voyait ce qu'ils pensaient, comme Jésus est en train de voir ce que nous pensons d'ailleurs. Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Mais il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, Il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. » Alors la question que je vous pose, qui répondez-vous? C'est quoi le plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou de dire « Lève-toi et marche ». C'est quoi le plus facile? Moi, je vais vous dire, c'est plus facile pour Jésus de dire « Lève-toi et marche » que de dire « Tes péchés sont pardonnés ». Parce que pour guérir le paralytique, Jésus manifestait la puissance. Pour que ses péchés soient pardonnés, il fallait qu'il meure au calvaire. C'était plus facile de dire « Lève-toi et marche ». Vous me suivez? J'espère que je m'explique bien. C'était beaucoup plus difficile dans la bouche de Jésus, de dire « Tes péchés sont pardonnés » parce que vous savez tout ce que Jésus devra subir pour que nos péchés soient pardonnés. Et ce texte nous enseigne bien que c'est sur la terre. Jésus dit à ses scribes qui disent « Mais attends, mais pour qui se prend pour pardonner ?» Ils n'ont pas compris que Jésus était Dieu incarné. Et que le péché, si Dieu peut le pardonner, c'est parce qu'avant de toucher les autres, il atteint Dieu. C'est pour ça que Dieu peut pardonner les péchés. Quand quelqu'un ment, les gens, c'est pour ça qu'ils ne sont pas sérieux les gens. Quelqu'un va mentir, oh c'est, pardon, mais le péché, il atteint Dieu d'abord. Est-ce que vous comprenez, je veux dire? C'est pour ça que Dieu, il offense Dieu, pour être plus précis. Même si on offense une personne, en vérité on offense Dieu. C'est pour ça que les gens ne sont pas sérieux avec le péché, et qu'on devrait le régler d'une manière beaucoup plus radicale. Mais Jésus dit, or, afin que vous sachiez, il faut le savoir, il faut qu'on vous l'apprenne. C'est peut-être pas votre faute, c'est notre responsabilité à nous, pasteurs, de vous enseigner à ce que vous sachiez que c'est sur la terre que le Fils de l'homme, que le Seigneur Jésus, a le pouvoir de pardonner tous les péchés. C'est sur la terre. Et croyez-moi, j'insiste, pour que nos péchés soient pardonnés, il a vraiment fallu que Jésus paye cher, très cher, car c'est pas lui qui a introduit le péché dans le monde, croyez-moi. Mes frères et sœurs, c'est sur la terre qu'il faut prendre ces choses au sérieux. Moi, je suis offusqué de voir la quantité de, même de chrétiens, on va le voir pour terminer, qui ne prennent pas au sérieux la piété dans leur cœur. Le mauvais riche représente tous ceux qui voudront régler, mais trop tard, l'affaire de leur éternité. En plus, il a envie d'évangéliser. Quand il se rend compte qu'il ne peut plus rien faire pour son âme, il pense à ses saints frères qui sont sur la terre. Tellement il est conscient du lieu de tourment dans lequel il se tourne, tout d'un coup il a envie d'évangéliser. Ça aussi, il aurait mieux valu qu'il le fasse avant. C'est pour ça, mes frères et sœurs, tant qu'on peut témoigner, tant qu'on peut distribuer des évangiles, faisons-le. Parce qu'après ça aussi, une fois qu'on est mort, même si on est au paradis, c'est quand même trop tard pour le faire. Donc cet enseignement de Jésus nous rappelle que cet homme, il est conscient du drame dans lequel se trouvent ses frères, qui peut-être comme lui prenaient les choses de Dieu à la légère. Et il dit, mais envoie Lazare. Pour qu'il... Et il dit même, parce que si quelqu'un des morts ressuscitait, il se repentirait. Il a bien compris qu'il fallait se repentir. Et Jésus va dire quelque chose de solennel. Jésus va leur dire, même si quelqu'un ressuscité ne croirait pas, ils ont la parole, enfin ils ont Moïse et les prophètes. Et si nous voulons aller au ciel, béni soit Dieu pour les expériences, béni soit Dieu pour les miracles, mais nous irons au ciel parce que nous serons touchés par la parole de Dieu. D'ailleurs, il y a bien quelqu'un qui est ressuscité des morts. En plus, il s'appelait Lazare, tiens, quelques jours après. C'est bizarre l'affaire, hein? Il demande d'envoyer Lazare, et Jésus, quelques mois après ou quelques semaines après, a ressuscité un homme qui s'appelait Lazare. Et vous savez ce qui s'est passé quand Jésus a ressuscité Lazare? Ils ont voulu tuer le Seigneur, et Lazare en même temps. Voyez, les manifestations, la puissance, les miracles, moi j'y crois, et je prie pour ça. Mais je suis touché par cette parole solennelle de Jésus, ils ont Moïse, c'est-à-dire ils ont la Bible. Ils ont la parole de Dieu. Combien c'est important de prendre la parole de Dieu au sérieux. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, afin que ces choses ne sortent pas de ton cœur. C'est dans Deutéronome 4, verset 9. Attentivement, prends garde à toi, dit le Seigneur par Moïse. Et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Si Dieu nous demande de veiller attentivement sur notre âme, il faut le faire. Et moi, je vous le dis, lisez la Bible. Lisez-la tous les jours. Lisez-la, peut-être que vous n'avez pas le temps de la lire une heure, mais eh bien, lisez-la 5 minutes. Mais ce que vous lisez pendant les 5 minutes, lisez-le avec cœur, lisez-le avec beaucoup d'amour. C'est la parole de Dieu. Si tu gardes la parole, dit le Seigneur, il te gardera. Beaucoup de chrétiens ne s'intéressent pas à Dieu. Ils viennent à l'église, ils prient, font quelques services, mais souvent ça les ennuie. Moi je le vois, comme on me dit, oh, vous savez, moi ça m'ennuie, je fais ça, mais ça m'ennuie. Que, bon, j'ai rien à dire après tout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ma responsabilité, elle a des limites aussi. Mais je crois que les choses de Dieu ne devraient pas nous ennuyer. Est-ce que vous êtes d'accord? Les choses de Dieu, elles devraient toujours nous intéresser. Le service pour Dieu, je fais le ménage dans l'église, eh bien je devrais le faire avec beaucoup de cœur. Je fais quelque chose dans l'église, c'est peut-être un travail caché, c'est le travail parmi les enfants. Seigneur, je ne veux pas que ça m'ennuie. Je ne veux pas que prier soit ennuyeux, même si c'est un combat. Vous comprenez mes frères, il faut prendre les choses au sérieux. Je n'ai pas le temps, mais j'avais pensé donner juste un petit enseignement sur les 7 textes où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents. C'est toujours adressé aux chrétiens. Ce sont des chrétiens qui n'ont pas pris les choses au sérieux. Ce sont des chrétiens qui n'ont pas veillé à faire valoir le talent qu'ils ont reçu. Vous vous rappelez, on va peut-être prendre juste un, dans Matthieu 22. Matthieu 22, c'est un homme qui accepte l'invitation de Jésus. Dans ce texte, c'est bien parce que vraiment, les 7 fois où il nous est parlé des pleurs et des grincements de dents, c'est Jésus qui en parle. C'est Jésus qui en parle, c'est dans la parabole du festin des noces. Alors, il y a tout, bien sûr, souvent, on s'arrête en parlant de cette parabole, de tous ceux qui refusent. Jésus invite tout le monde, mais tout le monde refuse, tout le monde est préoccupé, il y a trop de choses à faire, on n'a pas le temps. Mais, en fin de compte, la chute de cette histoire, c'est un homme qui a accepté l'invitation. Il a accepté. Alors, verset 10, Matthieu 22, « Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » J'ai presque envie d'ajouter, sans déformer la parole de Dieu, il y a beaucoup de gens qui prennent le baptême, mais il y en a peu qui passent par la repentance. Et cette histoire, elle est là, des gens qui acceptent l'invitation, ils acceptent de croire en Dieu, ils acceptent de réaliser que toutes ces choses sont vraies, ils acceptent l'invitation, mais cette robe blanche nous parle de la sanctification que Dieu nous accorde lorsque l'on croit vraiment que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et il est hors de question d'accepter une invitation, de dire « Ah, mais moi je suis croyant !» La porte qui va être fermée, là aussi dans ce texte de Luc, où il est parlé des pleurs et des grincements de dents, pour ceux qui seront à la porte et qui frapperont « Ouvre-nous, ouvre-nous !» Quand Jésus leur dira « Mais je ne vous connais pas !» Ce sont des gens qui auront pensé que de croire en Dieu, ça suffit. Beaucoup de gens se retrouveront dehors parce qu'ils pensent que croire en Dieu, ça suffit. Et la croyance, ça suffit pas. Pour aller au ciel, il faut croire en Dieu et il faut de la piété. Il faut une vraie piété. Il faut dire, Seigneur, je te demande pardon. Je prends au sérieux cette affaire de l'enfer. C'est pas certainement un pasteur qui fait une phobie là-dessus, qui fait une fixation là-dessus. C'est certainement plus sérieux que ce que je suis en train de penser. Mes frères et sœurs, mes amis, l'éternité sans Dieu, avec le diable et ses anges, et ses démons, oui, c'est des anges déchus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut prendre au sérieux cette affaire ? Et dire, Seigneur, moi je veux entrer dans ton royaume. Je ne veux plus que les choses de Dieu m'ennuient. Je veux que les choses de Dieu m'intéressent. Il y en a parmi nous. Vous savez, je veux être très sérieux. Dieu a demandé à Ézéchiel d'être sérieux par rapport à l'éternité des gens. Je veux m'appliquer à faire pareil parce que ce que Dieu demande aux pasteurs, il demande à tous les pasteurs. Il y a parmi nous des frères et sœurs Je ne parle pas des amis nouveaux qui vont se convertir, mais de quelques frères et sœurs qui sont ennuyés par les choses de Dieu. Alors moi, je bénis Dieu que vous êtes là. Seigneur vous a amené ce soir parce que, comme on l'a vu, Dieu a tant aimé le monde et Dieu vous aime tant qu'il veut que ce soir, par un acte d'obéissance, de foi et de joie, vous régliez ce problème. Ça peut prendre 5 secondes. Seigneur, je te demande pardon. Je ne veux plus que les choses spirituelles m'ennuient. Je veux que les choses spirituelles m'intéressent. Je ne viens pas pour de l'animation ici. Je viens parce que je veux être sauvé et je viens parce que je veux être un instrument pour que d'autres soient sauvés. Amen. On ferme les yeux quelques instants. On ferme les yeux, on est là quelques instants. Je vous en supplie, répondez au Seigneur. Vous n'avez pas besoin de faire une prière de 2 heures, vraiment une prière vraie. Vous avez vu le jour où le paralytique a été guéri, Jésus a vu que ces gens ce qu'ils pensaient. Et Jésus, il voit ce que vous pensez. Je m'adresse donc aux chrétiens. Est-ce que les choses de Dieu vous ennuient? Si elles vous ennuient, réglez ce différend que vous avez avec le Seigneur ce soir. Dites, Seigneur, je ne veux pas. Tu m'as placé à la musique, je ne veux pas que ça m'ennuie. Tu m'as placé à l'école du dimanche, au conseil d'administration, tu m'as placé dans telle et telle... Seigneur, je ne veux pas que ça m'ennuie. Je veux que ça m'intéresse, Seigneur. Tout à nouveau. Et je m'adresse à mes amis qui sont ici, à nos amis, vous qui découvrez l'Évangile. Pourquoi repousseriez-vous à demain, à plus tard, la conversion de votre âme? Pourquoi attendez-vous que les choses changent? Ce soir, repentez-vous. Il ne suffit pas, vous avez vu, d'accepter l'invitation. Il faut se revêtir du sang de Jésus-Christ. Car c'est le sang de Jésus qui fera que nous serons sauvés dans la gloire. C'est pour ça que, oui, Jésus a posé la question, lequel est le plus aisé de dire « tes péchés sont pardonnés ». Vous avez répondu « tes péchés sont pardonnés ». Eh bien, on s'est trompé. C'était de guérir un homme qui était plus facile pour Jésus. Parce que pour pardonner nos péchés, il a fallu vraiment qu'il souffre. Et ce soir, à cause de sa souffrance, il a subi non seulement la souffrance, il a aussi subi la honte et l'ignominie. Pour que nous n'ayons pas à la subir. Alors y a-t-il parmi nous un chrétien qui désire faire une expérience avec Dieu et dire, Seigneur, je me remets sur l'autel. Je prendrai les choses à la légère. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, les pleurs et les grincements dedans, c'est toujours pour des chrétiens qui n'ont pas été sérieux avec la parole de Dieu. C'est très facile à expliquer quand on a compris. Et c'est ma responsabilité. Alors si vous n'avez pas pris au sérieux les choses de Dieu, ou vous qui êtes en train de les prendre au sérieux, venez sur le devant. Peut-être que votre corps est malade et souffrant. Dieu veut vous guérir. Peut-être que votre âme est souffrante. Dieu veut la guérir. Peut-être que vous êtes perdu. Dieu veut vous sauver. Et pendant qu'on rechantera un chœur, je vais demander à notre jeune frère Edwidge de venir, s'il vous plaît, pour chanter un cantique. S'il vous plaît, avancez-vous. Il y a des frères ici, on priera pour vous. Ne regardez pas aux autres. Quand vous passerez devant Dieu, vous serez heureux de ne pas avoir regardé au camp, dira-t-on. Croyez-moi. Parce qu'en enfer aussi, il doit y avoir des multitudes de gens qui sont perdus à cause du quand dira-t-on. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Écoutez, ce que les autres pensent, bon, mais c'est pas grave. C'est ce que Dieu pense qui est important. Alors s'il y a quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui, avancez-vous s'il vous plaît. Avancez-vous sérieusement, joyeusement. Parce que comme je l'ai dit, Jésus est assis sur le trône. Jésus est vivant. La grâce n'est pas finie. Sa compassion, sa miséricorde, sa tendresse, sa faveur, sa bonté, son amour ne cesseront pas. Alors s'il vous plaît, avancez-vous avec sérieux. Les chrétiens qui ne sont pas sérieux, avancez-vous. Et les pécheurs perdus qui voulaient faire la paix, venez lui donner votre cœur. Voilà. Et vous qui êtes à votre place, priez pour le salut des âmes perdues. Priez pour ceux qui s'avancent. Il y a trop de frères et de sœurs qui ne prennent pas au sérieux la parole. Et il faut que ça change si nous voulons voir un réveil. Amen.